des cabanes en tout genre, inventer, jardiner les possibles, sans craindre d'appeler cabane des huttes de phrases, de papier, de pensées, d'amitié, des nouvelles façons de se représenter l'espace, le temps, l'action, les liens, les pratiques. Faire des cabanes pour occuper autrement le terrain, c'est-à-dire toujours aujourd'hui pour se mettre à plusieurs. Marielle Massé est ce soir notre invitée à l'occasion de la publication de son livre intitulé « Nos cabanes ». Et en seconde partie d'émission, elle sera rejointe par Christophe Laurence à l'occasion de la publication d'un très beau livre qui s'intitule « Notre-Dame des Landes ou le métier de vivre ». Mais comme chaque soir, nous commençons en musique avec Bertrand Belin, « Hyper nuit ».
Il entoure de la maison, hyper nuit, hyper nuit. Celui bien nommé la bête, le mal grandit, celui-même. Il entoure de la maison, hyper nuit, hyper nuit. Celui bien nommé la bête, celui qui buvait le lait au pimen, celui-là même qui se souvient d'un jour derrière, bien enfui, bien qu'enfui. Il n'a rien oublié du jour entre tous cruel, au bout duquel il a vu sa maison brûler, puis tomber. Là, il revient pour se venger de tout un village, de tout un village. Et là, c'est je suis là, je suis là. Il entoure de la maison, hyper nuit, il n'a pas oublié ce jour entre tous cruel, au bout duquel tout est parti, tout en fumée, dans le ciel. Là, il revient pour se venger de tout un village, de tout un village. Et là, je suis là, je suis. Était tombé dessus, hyper nuit, et fait passer le goût des fleurs, le goût des fleurs.
Vous avez remarqué, Marielle Massé, avec ce printemps un peu trop précoce, les oiseaux chantent bien avant que le jour ne se lève.
Oui, en effet, oui, j'ai été surprise et un peu secouée par ça parce que je venais de réfléchir à l'inverse, à ce que ça nous fait de les entendre beaucoup moins, de ne les entendre qu'encore chanter ou de les entendre se taire et nous dire qu'ils se taisent. Et donc, en effet, je me suis dit, bah voilà, c'est un désordre de plus que tout à coup entendre un oiseau un peu solitaire qui nous appelle en plein mois de février. Et je trouve que c'est une étrange sensation que celle d'être pris dans la chaleur à un moment où on devrait pas l'être et de devoir lutter un peu contre ce plaisir-là et pour garder à l'esprit que, voilà, qu'on est dans un monde abîmé.
Dans quelle nature avez-vous été élevé?
Moi, j'ai été élevée dans un fournil, donc j'ai été élevée dans la farine, et mais aussi dans un paysage agricole, un paysage très profondément transformé par l'industrialisation de l'agriculture après-guerre. Donc je viens de cet espace qui en fait jouxte Notre-Dame-des-Landes et qui est cette campagne des Pays de la Loire et de la Loire Atlantique qui a été, disons, progressivement privée de ses bosquets, de ses bois, de ses types de pratiques anciennes aussi pour être pour entrer dans une modernité qui permettait aux agriculteurs qui voulaient plus s'appeler des paysans, hein, qui voulaient être des agriculteurs, des exploitants, qui leur permettait de répondre à la demande qui leur était été faite, de prendre sur leurs épaules la charge de réparer les privations de la guerre et qui donc ont été contraints, enfin j'en parle un peu dans ce livre-là, contraints de devenir, de se délier de leurs pratiques, de leur façon de faire, de leurs attachements à la terre, sans trop peut-être s'en apercevoir, qui devenaient aussi des saccageurs de sol qu'ils continuaient pourtant d'aimer beaucoup.
Parlez-nous de la noue.
Ah, la noue, avec un E à la fin. La noue, c'est un nom de lieu très fréquent dans cette région. Ça désigne en fait des toutes petites zones humides, des fossés herbeux qui conservent les eaux de pluie et qui sont devenus aussi des techniques, enfin des façons de s'y prendre avec l'eau pour la maintenir, pour la drainer, pour la distribuer sur un territoire. Et les noues, donc c'est à la fois un lieu dit et puis un mot que j'ai saisi comme une chance, parce que je l'ai retrouvé justement en abondance sur le territoire de Notre-Dame-des-Landes. Et il m'a semblé que ce que ce mot disait de gestes anciens, mais aussi retrouvés aujourd'hui comme des techniques alternatives, enfin des façons de s'y prendre avec la nature, avec lesquelles on veut renouer, et un vocabulaire avec lequel on veut renouer aussi. Et bien sûr, j'entendais dans ce nom-là, non seulement, voilà, cette façon de nommer à la fois un lieu, une technique, mais aussi, évidemment, les noms des liens, des attachements, et puis encore le pronom « nous ». Et je me suis dit, ce mot-là, c'est une chance. Et c'était une chance pour moi de retrouver, dans des luttes contemporaines, mon vieux pays, en fait. Et de pouvoir aussi renouer avec lui, essayer de comprendre ce qui s'était passé dans ces terres abîmées, qui pourtant sont aussi, aujourd'hui en France, un des lieux où s'imagine et où se prouve, avec le plus de vigueur, qu'on peut vraiment faire autrement, qu'on peut vraiment vivre autrement.
Vous avez le talent d'écrire avec beaucoup de grâce les états du monde que nous traversons, avec beaucoup de sensibilité d'analyser nos contradictions, aussi bien écologiques qu'existentielles, de nous permettre de mettre en perspective finalement nos tourments politiques. Et vous le faites grâce à la poésie, la philosophie, la méditation dans la nature. Parmi les personnes qui vous servent de source nourricière, il y a Francis Ponge. Francis Ponge, nous allons l'écouter. Il va lire un de ses poèmes, Les Lilas. Écoutez.
Le Lilas, lu par l'auteur. par l'opiniâtreté d'une cohésion naturelle aux essaims d'inflorescence que voilà. Juge un peu, vois, sens donc et lis là un peu de l'ébranlement, de la riche émotion que ressent et procure non seulement à son bourreau, l'arbuste, lors de son ébranchement annuel. Il y a chimie du rose au bleu, efflorescence et proconfusion violâtre dans les éprouvettes en papier filtre du lilas. Les bouquets formés d'une quantité de tendres clous de girofle mauves ou bleus du lilas. Filtre, dis-je, si bien qu'une goutte de la grappe en fusion parfois se détache, comme du point d'exclamation le point. Mais quelle fantaisie alors dans sa chute, c'est l'abeille, avec des conséquences brûlantes pour l'expérimentateur. Vraiment, peut-on lui souhaiter dès lors autre chose que l'effleurement? Après quoi, nous pourrons ne l'employer plus que comme adjectif. Ainsi, lilas encore, aux fleurs, succède à profusion le ciel à travers les feuilles de l'arbuste de ce nom. Ce qui peut être la meilleure façon, j'imagine, de passer tout ce qui précède au bleu.
La poésie est-elle la voie royale pour vous, Marielle Massé, de pouvoir énoncer les beautés du monde ?
Ah, les beautés, j'en suis pas sûre. Je sais que c'est le sujet du Printemps des Poètes cette année. Moi, je suis plutôt sensible à la qualité de colère ou de questionnement qu'il peut avoir dans la poésie. Alors là, c'est vrai que j'ai presque du mal à reconnaître Ponge dans Ponge dans sa diction, dans cette lenteur. En même temps, c'est vraiment de lui que je tire quelques-unes des convictions qui m'animent, moi, que le travail de l'écriture, ça consiste à qualifier le réel avec le plus de justesse possible et donc à se rapporter aux états de choses en leur rendant justice le mieux qu'on peut. D'ailleurs, j'entendais ça là au début du texte, juge un peu. Il y a d'autres textes de Ponge où justement il dit que le réel a des droits à notre égard, qui pourrait porter plainte contre nous si on le qualifie mal, porter plainte en contrefaçon si on le maltraite jusque dans notre façon d'en parler. Donc c'est vrai que pour moi, la charge de vérité de la poésie, elle n'est pas tellement dans un rapport à l'éloge ou à la beauté, mais aussi bien dans une dynamique de perte aujourd'hui, si on pense à des sujets politiques ou écologiques, et puis dans ce désir de dire le réel en tant qu'on peut le transformer aussi, c'est-à-dire d'être animé par le désir d'affirmer que le monde pourrait être autre et qu'il l'est déjà, et que si on le regarde bien, si on l'observe avec attention, si on s'efforce de bien le qualifier, on les verra, ces points d'altération, où le monde est déjà autre, où les gestes sont déjà différents, où les lieux ont déjà changé, et on pourra les connecter entre eux et on pourra s'armer pour l'habiter autrement, notre présent.
Alors on reparlera de votre force de révolte qui est à la fois poétique mais aussi politique, de votre goût de l'avenir, de l'intensité de votre présent, Marielle Massé. Mais il y a aussi quelque chose de très important à l'intérieur de votre démarche, c'est la lecture. D'ailleurs, c'est comme ça que vous êtes apparue dans la scène intellectuelle française. C'était par un gros livre qui s'intitulait « Façon de lire, manière d'être », où vous arriviez à cartographier l'importance de la lecture aujourd'hui. Quelle fut votre première naissance ? Ça a été le premier livre pour vous, la première naissance ?
Oh, naissance, c'est un mot très intimidant. Non, la lecture, elle a été capitale pour moi, mais je m'en suis rendu compte après coup, en fait. Et je m'en suis rendu compte quand, comme pour tout le monde, en vérité, quand je voyais à quel point elle avait déjà infusé. Et c'est ça qui m'a intéressée dans la question de la lecture, c'était d'essayer de réfléchir à la façon dont on est accompagné par des phrases, par des livres, par des formes, la façon dont ces phrases, dont ces formes s'installent, se modifient, se promènent à l'intérieur de nous et nous équipent pour notre existence, pour nos questionnements, pour les réponses qu'on est capable de donner à la vie. Donc oui, pour moi, ça a pris beaucoup de temps de prendre la mesure avec tranquillité, en fait, avec calme, du fait que la lecture, elle est vraiment prise dans la patte de la vie. Et c'est ça qui m'importe, en vérité.
Nous allons écouter la voix de Roland Barthes, que vous citez abondamment. Il va évoquer le plaisir de la lecture. C'est une archive INA de 1973.
L'expression de plaisir, et surtout de plaisir du texte, est sinon ambiguë, disons incertaine à bien des égards. Parce que d'abord, il est évident que le plaisir de la lecture est très différent selon les sujets, n'est-ce pas? Un tel s'ennuie à un texte qu'un autre aime beaucoup et réciproquement, et il est donc extrêmement difficile de proposer une sorte de loi générale du plaisir de la lecture. C'est là une première incertitude. La seconde incertitude, c'est que la notion même de plaisir, je dirais sur un plan psychologique, est finalement assez mal connue. Je rappellerai simplement, sans vouloir faire de la philosophie de l'histoire de la philosophie, ce qui n'aurait pas de place ici, que, disons, toute la philosophie occidentale, dans son ensemble, a plus ou moins censuré le concept de plaisir, que les philosophes du plaisir sont extrêmement rares dans notre tradition. Par conséquent, quand nous parlons de plaisir, nous devons lutter avec une certaine résistance culturelle. Le plaisir, c'est une notion générale qui est futilisée par l'opinion courante. Et une troisième incertitude vient de ceci, que au fond, la science, disons, qui s'est le plus approchée du concept du plaisir, c'est évidemment actuellement la psychanalyse. Mais la psychanalyse, alors, introduit des nuances, des différences entre différents types de plaisirs, et je me suis servi, si vous voulez, d'une opposition qui, je crois, est assez utile, même si elle n'est pas absolument vraie. Elle a une valeur, disons, de guide, de conduction, de conducteur théorique. C'est l'opposition entre le plaisir et la jouissance.
Alors nous venons d'entendre la voix de Roland Barthes à propos du plaisir du texte. J'ai l'impression, Marielle Massé, en ayant lu ce livre de vous, Façon de lire, manière d'être, que la lecture n'est pas seulement justement le plaisir. Il s'agit d'autre chose. Il s'agit d'une descente en soi-même, d'une constitution de son être propre, d'un apprentissage de parties inconnues de nous.
Oui, c'est vrai que c'est un vocabulaire que j'ai pas tellement utilisé. Je dois trouver mes plaisirs ailleurs, en fait, et c'est pas tellement comme ça que je la conçois, la lecture. J'aime bien l'aligner sur d'autres gestes, en fait, sur la marche, ou sur la rencontre, ou sur la chute. Donc j'aime bien la penser comme partie prenante de toutes sortes de pratiques ou d'exercices. Je suis très sensible à la façon dont, par exemple, Olivier Cadiot décrit l'exercice de la littérature, écriture ou lecture, là dans ses deux derniers livres, Histoire de la littérature récente. Détendez-vous, dit-il, détendez-vous, et il nous invite dans le rapport à la littérature à penser ça comme des étirements, comme des exercices physiques. Alors moi, je verrais ça volontiers comme des étirements mentaux, affectifs, linguistiques, mais quelque chose de cet ordre-là. Il me semble que dans la lecture, c'est un sujet qui a affaire à un autre sujet, un quasi-sujet qui est le livre, et qui le suit sur sa piste ou qui refuse de le suivre et qui est conduit donc à s'altérer, à s'équiper autrement. Et c'est vrai que moi j'ai essayé de réfléchir beaucoup à la question aussi de la longue aventure des lecteurs. Il me semble que l'affaire n'est pas faite une fois le livre refermé. mais qu'on, voilà, on traverse l'existence et la réflexion armée de livres dont on se souvient, qu'on a déformé dans sa mémoire. Et j'ai vraiment cherché à réintroduire cette question de la lecture dans une espèce de pensée plus globale des pratiques d'existence ou du métier de vivre, comme on va le dire tout à l'heure.
Alors c'est drôle que vous disiez que la lecture et la marche ont des points communs, parce que vos deux derniers livres sont des petits livres très beaux, à petit format, qu'on peut mettre dans une poche et marcher avec, et puis s'asseoir sur un banc public, reprendre la marche, méditer, reprendre, etc., etc. Vous êtes une marcheuse, vous le montrez à l'intérieur de vos textes. Dans l'avant-dernier livre intitulé « Sidéré, virgule, considéré, migrant en France 2017 », vous marchiez dans Paris. Dans le nouveau, vous marchez plutôt vers Notre-Dame-des-Landes. Mais dans ce Paris de 2017, vous marchez pas très loin d'ici. En remontant le long de la Seine, c'est à moins d'une demi-heure à pied. Près de la gare d'Austerlitz, et qu'avez-vous vu, qu'avez-vous observé en tant que marcheuse, ce que les automobilistes ne voient jamais?
Oui, en fait, ce que beaucoup d'autres voyaient en vérité, qui était la présence d'un camp de migrants, de réfugiés, en contrebas des escaliers qui, à quelques dizaines de mètres près, conduisaient à la très grande bibliothèque. Et le côtoiement exorbitant entre ces deux espaces, ça m'avait sidérée, en effet, beaucoup frappée. Surtout que quand on élargissait la focale, on se rendait compte que ce campement, il était aussi à quelques centaines de mètres de ce qui avait été le camp annexe d'Austerlitz pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire une sorte de magasin général du nazisme où étaient entreposés les biens spoliés des Juifs. Et il y avait là une poche de la ville, une poche urbaine qui disait avec toute la cruauté que peut parfois avoir simplement le voisinage des espaces, qui racontait toute une histoire de ce que c'est qu'une ville. Mais tout l'effort du livre, c'était à la fois d'honorer ce sentiment de sidération qu'on éprouve tous devant des vies saccagées, à ce point inégalisées, disqualifiées, c'est-à-dire aussi mal qualifiées, mal décrites. Donc il s'agissait de faire droit à ce sentiment-là, mais aussi d'essayer doucement et avec loyauté de faire tourner ce sentiment-là vers une toute autre disposition, toute autre modalité de l'attention, toute autre émotion politique aussi, qui est la considération. C'est-à-dire à partir du moment où on cherche justement à être attentif à ses vies, à ne pas y reconnaître la misère de toujours et à pas s'embrasser l'épaule en quelque sorte en éprouvant exclusivement des sentiments d'empathie, mais d'empathie de souffrance à distance, comme le disait Luc Boltanski. Voilà. Qu'est-ce qui vient quand vraiment on comprend qu'on a affaire à des vivants, quand on se rapproche, quand on fait connaissance à tout point de vue? Et voilà, tout l'effort, donc, c'était aussi pour associer à une démarche de description, une réflexion sur ce que ça voudrait dire faire vraiment place, faire vraiment entrer des vies tout autres, mais tout aussi quotidiennement vécues que les nôtres, même si elles sont invivables, de les faire entrer dans notre espace et que ça change quelque chose à ce que ça veut dire nous, à ce que ça veut dire notre espace.
Je vous propose d'écouter la voix de Jacques Derrida. C'était à l'occasion de la sortie de son livre intitulé De l'hospitalité, archive INA, 29 décembre 1997.
Il y a toujours, entre l'hospitalité et l'improvisation, qui est notre situation à l'instant, une affinité essentielle. L'acte d'hospitalité doit comporter une part d'imprévisibilité. L'autre arrive. Évidemment, il y a des rites, il y a des conventions, mais le moment d'hospitalité est celui de la surprise. On ne demande rien, on ouvre la porte. Mais cette hospitalité absolue, s'il y en a, est toujours, justement, impossible. J'entends par là, non pas nécessairement quelque chose de négatif. c'est ce qu'il faut faire. Il faut faire l'impossible. Et dans tous les textes auxquels vous faites allusion, il y a ce souci à la fois de penser ou d'endurer une limite, par exemple celle de l'hospitalité, et de penser un impossible qui est néanmoins désiré comme tel et qui n'est pas nécessairement négatif. Au fond, il s'agit de savoir si l'appel de l'impossible, par exemple accueillir l'autre sans poser aucune condition, sans même lui demander son nom à la limite, hein, sans parler de son passeport et de ses papiers, hein, le laisser non seulement entrer, mais éventuellement bouleverser les conditions du chez-soi dans lequel on l'accueille. Ça, c'est vraiment quelque chose d'impossible, que nous jugerons impossible à différents lieux de l'impossible, mais en tout cas, cette hospitalité pure, inconditionnelle, est impossible.
Nous venons d'entendre la voix de Jacques Derrida. Marielle Massé, dans votre livre, avant-dernier livre, Sidérer, considérer, migrants en France 2017, à la dernière page, vous expliquez, je vais vous citer, « Aux autres, aux invisibles, il faut demander ce qu'ils ont à dire, ce qu'ils diraient, ce qu'ils pouvaient, ce qu'ils pourraient, et que donc nous pourrions. Au meilleur de ces pensées ou de ces démarches s'impose la nécessité de faire cas des vies qui effectivement se vivent dans tous ces lieux et qui en tant que telles ont quelque chose à dire et à nous dire de ce qu'elles sont. » Et effectivement, on vient d'entendre la voix de Jacques Derrida qui en tant que philosophe prend ce concept d'hospitalité pour essayer de le déployer, non pas en termes politiques ni même politiciens, mais pour essayer de réfléchir à ce sentiment d'humanité en chacun d'entre nous, de solidarité, d'égalité entre les êtres humains. Et vous, vous vous situez à une crête aussi, c'est-à-dire que vous êtes empathique par rapport à des poches de souffrance, par rapport à des personnes, comme vous l'avez dit tout à l'heure, disqualifiées, mais pour autant vous récusez violemment tout ce qui peut être de l'ordre, je dis des mots un peu vulgaires, hein, mais que vous utilisez ironiquement. Vous n'êtes pas dans le tourisme humanitaire, ni dans la pitié, ni dans la commisération. Vous êtes dans un entre-deux pour penser le monde de demain un peu moins abîmé que celui dans lequel nous vivons. Mmh. Alors comment on fait ?
Oui, la porte est très étroite, hein. Et même avec un mot comme le mot hospitalité, c'est très compliqué parce que personne ne va s'opposer à un mot aussi plein d'ancienneté, de dignité, de noblesse. Mais justement, ce que vous avez prononcé, égalité, par exemple, moi ça me paraît un mot beaucoup plus explosif qu'hospitalité aujourd'hui. La scène d'hospitalité antique, c'est un face-à-face ritualisé dans un temps où l'étranger est doté d'une aura qu'il n'a plus du tout dans les situations dont on parle. Enfin, c'est une scène qui repose sur la grandeur d'âme d'un pater familias, d'un propriétaire de maison, etc. Donc c'est une scène qui a peut-être plus tellement de choses à nous dire sur les conditions présentes de l'accueil. Mais être convaincu de l'égalité des vies, ça me paraît être une des choses les plus précieuses. Et oui, je répète, peut-être l'une des choses les plus explosives aujourd'hui. Parce que si vraiment on était convaincu de ça, si vraiment on partait de ça dans nos pratiques politiques, alors tout ce qui est saccagé politiquement, socialement, enfin toutes les violences exercées par un hypercapitalisme seraient vacillantes, hein, parce que cette conviction d'égalité, elle conduit justement à beaucoup plus de considération, hein, un rapport très sérieux au réel.
Les migrants sont obligés de se construire des petites cabanes qui sont généralement détruites par la police au moment où les zones doivent être soi-disant propres. Après votre livre sur les migrants, vous sortez ces jours-ci ce beau livre qui s'intitule « Nos cabanes ». Est-ce que c'est ce chemin de la précarité, de la fragilité, de l'abri temporaire, de ce monde complètement éclaté et fragile qui vous a conduit à faire l'éloge des cabanes, Marielle Massé ?
En fait, elles sont venues d'une autre source. Elles sont venues comme un nom qui s'est pour moi superposé à une série de pratiques que j'avais l'impression de voir s'imposer, rêver devant moi, grouiller comme ça, qui sont toutes sortes de bravades, de façons justement de tenter des vies, souvent des vies collectives, souvent des vies différentes, en partant de l'évidence de ce monde abîmé. Hein. C'est une formule que j'utilise beaucoup, vivre dans un monde abîmé. Et il m'a semblé que ce que signifient les cabanes aujourd'hui, parce que c'est une figure qui est très présente dans notre imaginaire politique, dans l'imaginaire militant, architectural aussi, il me semble que ce qu'elle désigne, ça n'est plus justement de l'ordre de l'abri, d'un lieu où s'écarter du cours du monde. Au contraire, ce sont des espaces où s'inventent, où se prouvent aussi d'autres façons de s'y prendre, dans un monde dont on renonce plus ou moins à le réparer, dont on se dit qu'il est trop saccagé pour pouvoir être justement amendé ou adouci, mais où on se dit qu'on a mieux à faire qu'à survivre et qu'on a le droit aussi d'espérer des vies désirables, et en particulier des vies reposant sur une revalorisation des liens entre les vivants, des liens entre toutes sortes de vivants, des liens avec le monde naturel. Et cette figure de la cabane, à la fois très matérielle et puis tellement riche d'associations qui nous affectent beaucoup. Enfin, je pense que c'est un mot qui réchauffe aussi, c'est un mot qui est aussi plein de dangers dans les sens dont il peut être chargé. Mais voilà, c'est un mot qui m'a semblé porter une charge de bravade. Comment s'y prendre pour reprendre les rênes, reprendre possession d'une imagination du futur, affirmer que, par exemple, pour toute une génération d'aujourd'hui à laquelle on dit bah, « pour vous, il n'y aura pas de place », mais affirmer que, justement, ce n'est pas d'un monde de place qu'ils voudront s'accommoder, qu'on leur refuse une place depuis le début. Moi, c'est ce que je perçois dans les aventures de vie de mes étudiants, qu'ils entendent ça depuis toujours, en fait, que pour eux, il n'y aura pas d'emploi, pas comme ça, pas de logement, pas de la même façon, pas de place. Et ben alors, s'il n'y a pas de place, on va inventer autrement les formes d'occupation du monde. Et on va essayer de les rêver, on va essayer d'élargir cet espace. Et c'est ça que j'ai voulu mettre à l'intérieur de ce mot-là.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix musical de Marielle Massé, Arlt.
Nous avons ri. Après quoi nous avons ri? Sol d'un coup d'un seul, nous en n'avons plus peur, qui non n'aurait pas pris peur. Allons. Après quoi nous avons ri? Après quoi nous avons ri? Nous avons ri.
Jardiner les possibles, prendre soin de ce qui se tente, partir de ce qui est, en faire cas, le soutenir, l'élargir, le laisser partir, le laisser rêver. C'est ce que vous écriviez, Marielle Massé, dans Nos cabanes, en évoquant Notre-Dame-des-Landes. Et il se trouve que ces jours-ci, j'ai reçu un très beau livre qui m'a été envoyé par vous, Christophe Laurence. Merci d'être là ce soir. Il s'intitule « Notre-Dame-des-Landes ou le métier de vivre ». Et c'est un livre qui est composé de dessins, de photographies, de textes et qui inventorie et cartographie très précisément, grâce, je crois, à un collectif d'étudiants, puisque vous êtes enseignant et vous enseignez l'écologie, qui cartographie ce qui se passait ou ce qui se passe encore à Notre-Dame-des-Landes.
Alors, sa cartographie ou sa dessine de l'architecture des cabanes, ça dessine ce qui se passait, puisque quelques-unes des cabanes dessinées dans le livre ont été démolies par la gendarmerie au printemps dernier. Mais sa cartographie et sa dessine ce qui se passe encore, puisque l'essentiel de la vie à Notre-Dame-des-Landes continue.
Et pourquoi cela a-t-il été freiné, voire endommagé, vous qui êtes architecte, paysagiste, enseignant? Pourquoi ça dérange?
Principalement parce que c'est une tentative qui est une véritable faille dans la modernité dont on a hérité. Et c'est une faille parce qu'elle est complète, c'est-à-dire que ce sont des manières d'être, pour faire écho à Marielle Massé, des manières d'être qui sont absolument singulières et qui sont en train de s'inventer là-bas. C'est des tentatives qui donneront, on ne sait pas encore tout à fait quoi, mais en tout cas c'est des tentatives entières de vie qui font face à toutes leurs responsabilités, pas simplement écologiques mais également sociale, mais également amicale, amoureuse, animale, etc.
Donc ça gêne, même si c'est ultra minoritaire. Ça gêne l'ordre établi, selon vous.
Ça fait plus que gêner, puisque c'est une tentative, c'est une possibilité d'un futur dans ce monde abîmé dont parle Marielle Massé. C'est ce qui nous a intéressés là-bas, c'est pour ça qu'on a été là-bas avec des étudiants, parce que c'est une expérience qui, vraisemblablement, ouvre des pistes possibles dans ce monde difficile.
Alors, vous enseignez, Christophe, les alternatives urbaines, c'est-à-dire que vous enseignez à vos étudiants les conséquences politiques de la dévastation écologique et anthropologique.
Exactement.
Master assez rare en France.
Oui, unique, je pense, mais unique sur les alternatives urbaines, comme ça, à partir de la question architecturale et paysagère, unique au sens de prendre en compte et au sérieux la question du réchauffement climatique et d'en tirer toutes les conséquences et de les tirer jusqu'au bout, c'est-à-dire pas simplement des conséquences écologiques, mais d'une écologie, y compris des vies humaines, etc. Et donc, cette tentative-là, c'est en fait ce livre-là est la rencontre, en fait, de deux expériences, l'une, expérimentation des modes de vie complètement différent à Notre-Dame-des-Landes, et puis l'autre, une expérience pédagogique, qui est ce master alternative urbaine qu'on a monté il y a 4 ou 5 ans avec quelques collègues dans la périphérie parisienne, à Vitry-sur-Seine.
On a l'impression, à à contempler la beauté de certaines pages de ce livre, donc qui s'intitule Notre-Dame-des-Landes ou le métier de vivre, qu'il s'agit bien d'une vie totale, c'est-à-dire et d'un mode de vie nouveau. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement la construction de cabanes, d'ailleurs toutes les plus inventives les unes que les autres, mais il y a aussi une manière pour les hommes et les femmes qui les ont construites de s'inscrire dans l'environnement, dans cette protection de l'environnement, d'inscrire aussi des liens profonds avec la nature. Est-ce qu'il s'agit pour vous de modèles qu'on peut qualifier d'utopistes encore aujourd'hui? Ou est-ce qu'il s'agit, même si c'est très minoritaire encore en 2019, comme vous êtes architecte, paysagiste, enseignant, est-ce qu'il s'agit pour vous de lancer des pistes pour l'avenir qui vont peut-être croître à l'intérieur des jeunes générations qui ont peut-être envie de s'inscrire dans ces modes de vie-là alternatifs?
Oui, c'est une évidence pour moi que il y a maintenant une jeunesse qui est dans une attente extrêmement forte vis-à-vis de simplement d'avoir un avenir possible, un avenir désirable. Et je pense qu'on a beaucoup de mal à imaginer à la fois l'ampleur du désastre qui vient, du fait du réchauffement climatique et de l'ensemble de ses conséquences anthropologiques, etc. Mais également la beauté des cabanes et des possibilités des choses qu'on va pouvoir construire malgré ce désastre à venir. Et qu'aujourd'hui, ce qu'on essaie de faire avec ces étudiants à Vitry, c'est justement de repérer, d'ouvrir des pistes comme ça, alternatives, pour mener des vies autrement. Il me semble que Notre-Dame-des-Landes, oui, est plus du côté de l'utopie, mais du côté d'une nécessité absolue. C'est-à-dire que c'est une des manières possibles aujourd'hui de recommencer le monde, d'une certaine manière. C'est ce qu'on observe là-bas quand on a dessiné les cabanes, donc comme ça, de manière vraiment architecturale, pour le coup, puisque c'est nos outils. Donc c'est des plans, des coupes, des élévations. On a fait des relevés au centimètre près. On peut faire les maquettes des cabanes à partir des dessins qu'on a produits. Et donc c'était une manière pour nous d'amener cette discussion-là, cette matière-là d'une vie globale et alternative dans les écoles d'architecture, que ce soit la matière même de l'architecture maintenant d'habiter autrement la surface de la Terre. Et ce qu'on voit à Notre-Dame-des-Landes, dans cette manière d'habiter autrement, non pas l'environnement mais plutôt un milieu, c'est-à-dire d'habiter non pas des bâtiments mais d'habiter des milieux, c'est-à-dire que la vie là-bas est territorial, on va dire. Et ce qui est très frappant quand on dessine et qu'on observe les cabanes et la vie de la ZAD, c'est qu'il y a une porosité très très forte entre tous les dedans et tous les dehors. Quand je dis les dedans et les dehors, c'est les dedans individuels, des personnes qui vivent là-bas, et ce qu'ils peuvent extérioriser, communiquer, partager ensemble, mais c'est aussi les dedans des cabanes et les dehors du bocage. Parce que ces cabanes-là sont, d'une certaine manière, comme toutes les cabanes. C'est pas des abris, c'est pas des choses qui nous isolent du monde, au contraire. Une cabane, c'est une espèce de parapluie. Ça protège, mais ça fait surtout entendre la pluie qui tombe dessus. Et puis, ça ouvre un certain nombre de possibilités d'accueil, etc. Et là, ce qu'on voit très bien à Notre-Dame-des-Landes, c'est que de l'intérieur à l'extérieur, il y a très peu de... C'est pas des vies en communauté, c'est des constellations de vie qui s'organisent comme ça dans le bocage. Et à partir d'un lieu commun, qui est en général la cuisine, l'atelier, le jardin, qui est composé comme ça, s'articulent d'autres lieux individuels, en gros des chambres à soi pour chacun des membres de chaque constellation. Et ces chambres sont les fameuses cabanes, les caravanes, les camions, tout peut faire cabane à ce moment-là. Et du coup, pour passer de la cuisine à la chambre, on peut traverser un champ, monter dans un arbre, etc. Et on passe dehors, quoi. C'est-à-dire que cette nature-là poussante s'invite à l'intérieur même des maisons. Et du coup, il y a une espèce de sentiment d'habiter le bocage complètement, quoi.
Alors cette porosité entre l'intérieur et l'extérieur, cette union avec la nature, on la ressent aussi beaucoup non seulement à l'intérieur de votre livre, Christophe Laurence, mais aussi dans le texte de Marielle Massé. Je vais vous citer Marielle Massé. « Faire des cabanes sans pour autant se contenter de peu, se résigner à une politica povera, s'accommoder de précarité de tous ordres et encore moins les enchanter, sans jouer aux nomades ou aux démunis quand justement on ne l'est pas. Mais pour braver ces précarités, leur opposer des conduites et des convictions, des cabanes qui ne sauraient soigner ou réparer la violence faite aux vies, mais qui la signalent, l'accusent et répliquent en réclamant très matériellement un autre monde qu'elles appellent à elles et que déjà elles prouvent. Quel est le futur des cabanes, Marielle Massé ?
Ce qu'on entend là dans ce que vous décrivez, c'est que c'est déjà là. C'est-à-dire, moi, ce qui me frappe, c'est qu'on parle tentative, expérimentation, utopie, mais quand vous demandiez, Laura Adler, pourquoi ça a été détruit, ça a été détruit parce que c'était des preuves. C'était pas simplement des germes ou des essais ou des tentatives, c'était des preuves. C'était des preuves qu'il faut vraiment s'y prendre autrement avec la nature, qu'il faut vraiment s'y prendre autrement dans nos liens, dans nos façons de penser le travail, etc. Alors, bon, moi, je parle de ce qui me regarde pas, je suis pas sociologue, mais il me semble qu'il y a là beaucoup plus qu'une rêverie ou des pas de côté ou des décalages ou des espaces d'expérimentation. Il y a vraiment la réclamation très vigoureuse de s'y prendre autrement pour vivre. Et voilà, ces cabanes, elles soutiennent des idées, de même que les oiseaux qui tombent nous réclament aussi qu'on les écoute autrement, que les fleuves qui débordent réclament qu'on s'y prenne autrement avec eux. Il y a là, il me semble, des cris du monde, des propositions du monde à l'écoute desquelles on doit être dès maintenant.
Christophe Laurence.
Oui, à l'évidence, c'est une possibilité d'avenir hein, que réclament et les oiseaux et la jeunesse et nous avec eux, et qui aujourd'hui est menacée. Quoi. Quand on discute avec les étudiants, qui nous disent oui, en fin de soirée, quand tout le monde est un peu fatigué, la discussion la plus commune qui arrive, c'est est-ce qu'on va faire des enfants ? D'accord. Donc aujourd'hui, une génération entière comme ça qui est en train de se demander s'ils vont faire des enfants, évidemment, c'est une génération qui va être politique, mais politique plus, quoi, et qui va saisir les politiques qui, eux, ne s'occupent de rien pendant ce temps pour construire ces cabanes qui sont aujourd'hui, pour moi, une nécessité absolue. Ça n'est qu'un début, Notre-Dame-des-Landes, ce n'est qu'une tentative, mais partout, nous sommes en train d'essayer les uns les autres de faire des cabanes qui sont des possibilités d'avenir.
Mais on voit bien dans votre livre aussi, Marielle Massé, qu'il y a des tas de jeunes qui, en ce moment même en France, mais aussi partout en Europe, inventent un mode de vie où la précarité n'est pas une punition, mais une possibilité d'avoir des réservoirs de solidarité et de pratiques quotidiennes pour moins abîmer le monde.
Elle est toujours une punition, en vérité. Mais en effet, moi, je suis impressionnée par la vigueur, à la fois inquiète, mais aussi impatiente et parfois joyeuse, avec laquelle des collectifs, notamment de gens qui sont beaucoup plus jeunes que moi, affrontent ces questions et justement pas sous la forme de l'utopie, mais sous celle de l'impatience. L'impatience à faire, à fabriquer, à s'appuyer aussi sur l'amitié qu'ils ont les uns pour les autres. Donc moi, je me suis sentie guidée aussi dans cette réflexion par la vie matérielle de bien plus jeunes que moi. Vous receviez il y a quelques jours Arthur Lockman et sa vie solide. Charpentier, philosophe charpentier, il me semble que c'est de ça que lui aussi parle. Alors il parle effectivement de la difficulté à faire tenir ensemble plusieurs planches, plusieurs pièces, mais il parle aussi de la nécessité d'une vie à plusieurs, où on fabrique, où on construit, où on répare beaucoup. Et il me semble que c'est tout à fait du même ordre, en fait.
Ben merci infiniment pour vous deux. Vive les oiseaux, mais vive surtout les jeunes qui inventent notre avenir et qui ont le goût de l'avenir. Merci infiniment, Christophe Laurence, pour ce livre qui s'intitule « Notre-Dame-des-Landes ou le métier de vivre ». Et puis vous, Marielle Massé, merci infiniment pour ce nouveau livre qui paraît aux éditions Verdier, que vous pouvez mettre dans votre poche si vous vous promenez dans les beaux paysages des Landes. Ce livre s'intitule « Nos cabanes » et on va se quitter en écoutant « Mieux sec ».
S'alléger de tous leurs tourments, veulent-ils se laver de toutes leurs fautes, veulent-ils retrouver la légèreté, ce moment rare où l'on flotte, où l'on pense enfin avoir trouvé le produit, le remède, le vaccin, l'antidote. Faire, faire, faire.
Merci à Paul Percheron qui était à la technique ce soir. Merci à Jean-Baptiste Audibert, à Antoine Joubert, à Anne-Sophie Dazard, Élodie Royer et à Benjamin Riquet.